Bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus, que vous soyez à la maison, derrière ou devant votre écran, c'est selon, et pour tous ceux qui sont ici en présentiel. On se réjouit de se retrouver, on se réjouit, on fait la fête, on est dans la joie. Effectivement, il y a une semaine, on a appris que Christ était ressuscité, et c'est une très très bonne nouvelle. Je vous invite à prier avant de commencer ce culte. Seigneur, merci parce que tu es au milieu de nous et nous voulons te louer, te mettre au centre, t'adorer, prendre du temps pour toi en communauté, ensemble. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier parce que tu vas nous accompagner et nous voulons vraiment te soumettre, te remettre tout ce culte. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, il y a pas mal de gens qui participe à l'élaboration de ce culte. Je pense à l'équipe musicale, donc Jean-Christophe Piguet et Jean-Pierre Francioli. Alors Jean-Pierre Francioli, je le connais depuis longtemps. On s'est rencontrés dans le milieu professionnel et vous allez rigoler parce qu'on faisait du streaming ensemble. C'est-à-dire que pour recevoir les cours de la bourse, les cours des échanges forex, comme on appelle ça, les cours de change, il fallait avoir un flux de données extrêmement rapide et avec les lignes téléphoniques, ça ne suivait pas. Donc on a installé des antennes satellites et on recevait directement du satellite les données financières. Alors lui était chargé de ses antennes et moi je m'occupais de réceptionner ces données. Là, bien sûr, nous aurons Philippe Anchaud qui nous donnera le message et toute la technique avec Roxane et Eric qui sont au fond. Alors, en pensant à ce culte, j'ai pensé à un texte qui est dans Philippiens 3, 20 et 21. Je vais vous le lire. « Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, nous nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux, grâce à la puissance qui lui permette de soumettre toutes choses à son autorité. » C'est un peu compliqué, mais on va décortiquer un petit peu. Alors moi, j'ai posé des questions. Est-ce qu'il y en a qui sont binationales ici? Personne? Et je vois une main, donc il y a deux personnes binationales. Eh bien, c'est faux. Est-ce qu'on est tous binationales, voire trinationales? Parce qu'on a une nouvelle identité en Jésus-Christ. On est citoyen des cieux. Et on a hérité d'une nouvelle patrie. Donc on est de toute façon tous binationales au minimum. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le film qui s'appelait Les Faiseurs de Suisse? Ouais. Donc il y en a quand même qui connaissent cette histoire. Je peux vous dire que je connais quelqu'un qui a vécu ça, une personne que je connais bien. Eh bien, la réalité dépasse la fiction. Donc encore aujourd'hui, c'est très compliqué de venir Suisse. Cet ami qui a passé l'examen était interrogé par un étranger qui parlait tout juste le français. Et puis il a posé des tas de questions alors que ce candidat suisse est né à Genève, a vécu à Genève et connaissait toute l'histoire suisse et a fait toutes ses études ici. Donc on peut rigoler. Et ben, dans notre cas, on est héritier. On a une nouvelle patrie, on fait partie d'une nouvelle nation. Vous savez, vous avez un passeport pour voyager, vous aurez peut-être un passeport Covid bientôt, si jamais il se fait. Mais en fait, on a reçu un passeport pour le ciel. Moi, je trouve que c'est fantastique, c'est une excellente nouvelle. Il est gratuit, sans examen, il est offert à celui qui croit en Jésus-Christ. Donc c'est magnifique. Nous vivons terrestres, hein, nous mourrons terrestres, mais nous serons éternellement avec Dieu au ciel. Et ça, c'est garanti par l'Écriture, par la Bible. Alors, notre ami Philippe développera un peu ce thème, enfin même complètement tout à l'heure, en se basant sur l'Écriture. Et dans cette Bible, on nous propose aussi d'être immergés dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez Archimède? Principe d'Archimède hein, en physique. Donc tout corps qui est plongé dans un liquide, il en ressort mouillé. Bon, c'est peut-être pas tout à fait la formule, mais pour dire qu'on est invité en croyant en Jésus-Christ, on est mort et ressuscité avec lui, et on est candidat pour être là-haut, pour être immergé dans l'Esprit et héritier du royaume de Dieu. Et c'est que des bonnes nouvelles que je vous annonce ce matin. Voilà, je vais céder la parole et le chant à nos amis de la louange. Voilà, j'ai cédé la parole à Philippe. Ils ont juste prié avant de cette prédication. Seigneur, merci parce que tu es présent au milieu de nous. Merci pour cette occasion de te louer, de te chanter. Peut-être que dans notre cœur, mais nous voulons vraiment exprimer notre joie de t'appartenir. Nous te confions, Philippe, dans son message, que tu l'aides, qu'il puisse vraiment nous parler de ta part et que nos cœurs soient aussi réceptifs pour comprendre aussi ces textes qui sont un peu surprenants pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen.
Bonjour à chacun, chacune. Le vent se lève. Le vent se lève. Et il pousse ça et là de petits détritus. On voit de minuscules tourbillons de poussière. Il fait sombre. Le soleil ne cogne plus. Les gens frissonnent même. On entend des murmures d'inquiétude et, plus troublant encore, des pleurs à moitié étouffés. Là, un homme hurle de rage et de douleur. Et puis ici, lentement, délibérément, il y a une autre voix qui se fait entendre. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Une femme pousse un cri, elle s'affaisse entre les bras de ses amis. Jésus est mort. Jésus est mort. Il a pris sur lui nos fautes, réconciliant le monde avec lui-même. Il a expié nos péchés et nous a assuré le pardon de Dieu et son accueil inconditionnel à la vie, à la mort. Jésus est mort. Mais où est-il maintenant, ce vendredi soir, ce fameux vendredi soir? Où est-il? Jésus. Où est-il? À un compagnon de malheur, il vient de dire: aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors que son corps est resté cloué sur la croix et que les soldats vont venir vérifier que le condamné est vraiment mort, Joseph d'Arimathée vient réclamer son corps à Ponce Pilate et il le dépose dans le tombeau qu'il avait acheté. Certains diraient « juste pour le week-end ». Jésus est mort. avant de mourir, il a remis son esprit entre les mains du Père. Et donc, conformément à sa promesse, il se trouve être dans le paradis. Cette promesse, il l'a faite au brigand cloué sur la croix à côté de lui. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. Mais Jésus n'est pas encore ressuscité. Ce sera pour le dimanche matin, n'est-ce pas? Mais entre le vendredi soir et le dimanche matin, si nous nous posons la question de savoir où est Jésus, nous ne pouvons donner qu'une seule réponse. Il est avec le Père dans le paradis. Et nous pouvons aussi dire qu'il n'est pas seul avec le Père dans le paradis. Un brigand repenti est avec lui. Dimanche matin, la terre froide est couverte d'une couche légère de rosée matinale, a laissé apparaître une vie nouvelle, glorieuse. Tournée vers le soleil qui peu à peu réchauffe le sol, la vie a gagné sur le froid de la nuit. L'espoir a vaincu la mort menaçante. Et ce qui était vrai pour Jésus est aussi vrai pour celles et ceux qui ont placé leur confiance en lui. Même si cette confiance est fragile, même si cette confiance est tremblante, même si cette confiance est emplie de doutes, même si cette confiance est incertaine. Parce que la foi, pour être active, n'a pas besoin d'être forte. Ça, ce sont des histoires qu'on se raconte en tant que chrétien. Il faudrait une foi forte, mais il n'y a pas besoin d'une foi forte. Ce qui doit être fort, c'est l'objet de notre foi. Le Christ, c'est lui qui est fort. C'est lui qui a vaincu la mort. Que se passe-t-il après la mort? Je mesure que le sujet est délicat, parce qu'il réveille en nous des sentiments contrastés. Quand j'écris ce texte, je pense à celles et ceux qui nous ont quittés. Quand je réfléchis à cette thématique, je suis confronté à ma propre finitude. Quand nous réfléchissons à ce qui se passe après la mort, avec la mort, nous sommes confrontés les uns et les autres à notre propre vulnérabilité et à nos peurs peut-être. Et nous pensons à ceux que nous perdrons encore du temps de notre vivant. Que se passe-t-il après la mort? En attendant la fin des temps et la résurrection des justes et des injustes, la mort fait entrer les croyants et les croyantes dans la présence même de Dieu. Tous ceux qui nous ont précédés dans la foi nous ont aussi précédés dans la présence même du Seigneur. Seule une petite minorité restée en vie lors du retour du Seigneur ne verra pas la mort. En Corinthiens 15, 51. 1 Thessaloniciens 4, verset 15, nous y reviendrons. Une petite minorité restée en vie lors du retour du Seigneur ne verra pas la mort. mais sera tout simplement changé. Je crois donc que l'on peut dire que tout le poids de l'enseignement biblique porte sur l'état final des choses, sur la résurrection. Peut-être on a, voilà, un slide. Tout le poids de l'enseignement biblique porte sur l'état final des choses, sur la résurrection. Il en est ainsi dans le symbole des apôtres. « Je crois à la résurrection de la chair », disons-nous parfois. C'est-à-dire, « Je crois à la résurrection des corps », différents, transformés, mais des corps tout de même. Mais en attendant la résurrection, il y a pour les croyants une étape que nos amis théologiens appellent l'état intermédiaire. Pour les croyants, je trouve personnellement que cette appellation d'état intermédiaire est un peu malheureuse. Pensons à toutes les promesses qui y sont attachées. Pensons à la joie des rachetés. Pensons à l'espoir qui est le nôtre quand nous tombons malades, quand nous vieillissons, quand nous nous préparons à mourir. Mais en même temps, ce terme technique d'état intermédiaire permet aussi de s'interroger sur le sort de celles et ceux qui ne peuvent pas envisager tranquillement de rencontrer Dieu, leur Créateur. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous fassions ici deux lectures bibliques. La première, elle est en Ésaïe 14, c'est au sujet du roi de Babylone. Et la seconde est en Luc 16, le riche et le pauvre Lazare.
Le premier texte est donc dans Ésaïe. « En bas, dans le monde des morts, on s'agite à l'annonce de ta venue. Pour toi, on réveille les ombres, tous ceux qui avaient été de grands chefs sur la terre. On fait lever de leur trône tous les rois de la terre. Ils prennent tous la parole et disent, « Toi aussi, te voilà sans force, dans le même état que nous ?» Le deuxième texte, c'est un texte connu qui va être travaillé tout à l'heure, la parabole du riche et de Lazare, dans Luc 16, 19 à 31. Il y avait un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre appelé Lazare. Son corps était couvert de plaies. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Il souffrait cruellement dans le monde des morts. Il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Père Abraham, prends pitié de moi. Envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre horriblement dans ce feu. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi de ce que tu as reçu beaucoup de bonheur pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi, tu souffres. De plus, il y a un profond abîme entre vous et nous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et l'on ne peut pas non plus parvenir jusqu'à nous où tu es. » Le riche dit, « Je t'en prie, Père, envoie donc Lazare dans la maison de mon Père, où j'ai cinq frères, qu'ils aillent les avertir afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de souffrance. » Mais Abraham répondit, « Tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Cela ne suffit pas, Père Abraham, mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de vie. » Mais Abraham lui dit, « S'il ne veut pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. »
La parabole du riche et de Lazare, ça reste une parabole, une histoire que Jésus raconte. Nous pourrions dire que Jésus a raconté une histoire fictive comme il en a raconté bien d'autres. Nous pourrions même dire qu'il a puisé dans les idées de son temps pour en venir à la pointe de la parabole, comme quoi il est de la plus haute importance d'écouter aujourd'hui encore la loi et les prophètes. Mais il se trouve aussi que cette vision de l'au-delà couvre pour nous cette parabole, correspond au tâtonnement de l'Ancien Testament et à certains versets un peu plus clairs du Nouveau Testament. Ce qui correspond à plusieurs passages dans l'Ancien Testament, c'est la notion d'un lieu qui accueille les morts à partir de leur décès. Un lieu qui accueille les morts à partir de leur décès. Le séjour des morts, le Sheol. Dans le texte d'Ésaïe, nous y voyons que tout le monde y est. Des petits et des grands, des justes et des injustes. Et que dans ce séjour des morts, tout le monde y est conscient. Comme nous l'avons lu, les rois de la terre ricanent en voyant arriver le roi de Babylone. Abraham lui-même et Moïse sont vivants dans ce Sheol d'Ésaïe 14. On pourrait citer 1 Samuel 28 au verset 15. Cet épisode bizarre avec cette nécromancienne dans le village d'Aïn d'Or. Cette nécromancienne qui vient déranger Samuel dans le séjour des morts. Et Samuel se laisse déranger dans le séjour des morts. Par ailleurs, l'Ancien Testament, en plusieurs endroits, en particulier Deutéronome 18 ou Ésaïe 8, nous disent que c'est un péché très grave que d'essayer d'entrer en contact avec les morts. Ecclésiaste 9, verset 6, « Les morts n'interviennent plus dans la vie sur la terre. » On aimerait bien, en tout cas moi j'aimerais bien, que l'Ancien Testament en dise un peu plus. Mais autant les Égyptiens anciens étaient obsédés par la vie après la mort, autant les Israélites, après des centaines d'années en Égypte, s'en désintéressaient complètement. Et quand ils s'y intéressent, ce qui est rare, eh ben c'est comme dans Ésaïe, comme dans Ézéchiel, comme dans Daniel, quand il s'y intéresse, c'est toujours, toujours pour aller vers le thème de la résurrection. La parabole de Jésus, donc, que nous venons de lire, Luc 16, la parabole de Jésus ajoute ceci à cette compréhension très simple du séjour des morts. C'est qu'après la mort, il y a déjà une séparation entre ceux qui vivent avec Dieu et ceux qui sont loin de Dieu. Après la mort, cette séparation, elle existe. Le texte de la parabole est extrêmement clair à ce propos. Est-ce que c'est le sommeil? Non. Le sommeil, c'est parfois un euphémisme pour la mort. C'est une manière un peu adoucie d'en parler, comme nous disons de quelqu'un, il est parti, il s'est endormi. Est-ce de l'inconscience, une sorte de néant provisoire, le vide absolu? En aucun endroit, la Bible ne le décrit comme ça. Nulle part. Est-ce qu'alors l'expérience de celles et ceux qui ont été cliniquement morts nous renseignerait un peu sur ce qui se passe après la mort? C'est une question un peu compliquée, hein, mais il me semble que l'expérience de ces gens ne peut pas vraiment nous renseigner. Je vous donne trois raisons. La première, c'est qu'en fait, aucune de ces personnes revenues à la vie n'était réellement morte. Elles étaient entre deux. Leur conscience, leur cerveau fonctionnaient comme un ordinateur qui mouline un certain temps après qu'on a pensé cliquer sur « arrêter » et qu'on s'aperçoive en fait qu'on a cliqué sur « mise en veille ». La deuxième raison, c'est que tout le monde ne revient pas avec des histoires de tunnels lumineux et de personnages en blanc. Certains reviennent, et j'en ai entendu, avec des souvenirs particulièrement pénibles, que le cerveau s'efforce ensuite d'effacer. Et puis une troisième raison, c'est que ces gens ne reviennent pas avec des informations précises sur l'au-delà. Et c'est bien normal, parce qu'elle n'était pas morte. Pour moi, il vaut mieux en rester à ce que la Bible dit clairement. Après la mort et avant la résurrection, il y a bien une vie. Et il y a même un tri. Et il y a la possibilité, dans la vie après la mort, avant la résurrection, d'une vie heureuse avec Dieu. Le pauvre Lazare, c'est juste une parabole, pourrait-on dire. Mais c'est plus qu'une parabole. Jésus-Christ et le brigand repenti, c'est pour de vrai. Sinon, il faut changer de crèmerie. Si ce que Jésus n'a pas dit, si ce que Jésus a dit, pardon, au brigand repenti sur la croix n'est pas vrai, il faut changer de crèmerie. Quand Jésus dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis », c'est vrai. C'est vrai. Le témoignage de l'apôtre Paul est particulièrement intéressant ici. Il se trouve en prison et puis il pense à la mort. Que nous, des fois, qui nous interdisons ce type de pensée. Et voilà l'apôtre Paul en prison. Puis il pense à la mort. Puis il n'y a rien de surprenant à cela. Mais ce qui est fort, c'est sa manière d'en parler. Je vous le lis. Philippiens 1, les versets 20 à 24. En effet, selon ce que j'attends et ce que j'espère vivement, je n'aurai aucune raison d'être honteux. Au contraire, maintenant, comme toujours, avec une pleine assurance, la grandeur du Christ sera manifestée en moi, que je vive ou que je meure. Car pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un gain. Mais si vivre ici-bas me permet encore d'accomplir une œuvre utile, alors je ne sais pas que choisir. Je suis tiraillé entre deux désirs. J'aimerais quitter cette vie pour être avec le Christ, ce qui serait bien préférable. Mais il est bien plus nécessaire, à cause de vous, que je continue à vivre. S'en aller pour être avec le Christ, c'est de loin le meilleur. avant même la résurrection. Il n'est pas question ici de résurrection. Avant la résurrection, après la mort, s'en aller pour être avec Christ, c'est de loin le meilleur. D'autres versets qui s'appliquent plus précisément à l'étape finale pourraient aussi s'appliquer donc à l'étape intermédiaire. 1 Corinthiens 13, verset 12. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle. Mais alors, avant la résurrection, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Truc de dingue. Je connaîtrai comme Dieu me connaît. 1 Jean 3, verset 2. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est. Apocalypse 14, verset 13. Très clair. Heureux dès à présent, pas la résurrection, heureux dès à présent, ceux qui meurent unis au Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise et ils seront récompensés de leurs œuvres. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. 1 Corinthiens 15, verset 51. Mais alors, puisque nul ne sait quand est-ce que le Seigneur viendra, nous ferions bien de nous poser la question : comment pouvons-nous préparer notre mort ? Et ici, il me semble que l'exemple de Jésus peut, comme toujours, nous inspirer. L'exemple de Jésus. Le premier point, c'est que ce n'est pas un péché de ressentir de l'angoisse à l'idée même de la mort. La nôtre, celle des autres. Ce n'est pas un péché de ressentir de l'angoisse. Si c'était un péché de ressentir de l'angoisse, alors dans le jardin de Gethsémané, Jésus aurait péché. Saisi d'angoisse, au point de saigner à l'idée même de déposer sa vie. Ce n'est pas une faute de ne pas ressentir la présence de Dieu. Le silence apparent de Dieu n'équivaut pas à son absence. Sinon, Jésus aurait péché sur la croix même. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Silence apparent de Dieu, la distance apparente de Dieu, qui n'est pas réelle. La suite de l'histoire le montre. Alors bien sûr que nous, on ne va pas porter le péché du monde, hein. Mais le sentiment d'en abandon, ce n'est pas seulement l'expérience de Jésus sur la croix. C'est une expérience que nous découvrons, par exemple, tout au long du livre des Psaumes, le sentiment d'abandon. Je sais que tous les chrétiens ne voient pas l'approche de la mort avec confiance. C'est une question de caractère. Parfois en rapport avec le type de maladie, avec l'âge, avec les traitements. Que sais-je encore ? Premier point donc, nous n'avons pas, nous, à attacher trop d'importance à nos peurs. Parce que Dieu est bien plus grand et bien plus fort que nos peurs. Un deuxième point, c'est qu'avant de partir, il y a peut-être des choses à régler. Nos médecins, quand ils sont compétents, nous parlent des directives anticipées. Jésus lui dit, « Père, pardonne-leur. » En compulsant l'un ou l'autre livre d'histoire, j'ai découvert que dans les temps jadis, quand on exécutait les gens à la hache, il était très courant que le condamné pardonne publiquement à son bourreau. Comme pour l'exécution de Milady, par exemple, dans Les Trois Mousquetaires. C'est que le condamné ne voulait pas prendre le risque d'entrer dans la présence de Dieu en ayant sur le cœur une rancune quelconque, y compris à l'égard de son bourreau. Des choses à régler. Ça peut être une lettre à écrire, si on en a encore la force. Testament à rédiger. Jésus, a pris des dispositions très claires pour que son disciple Jean s'occupe de sa mère Marie. Des dispositions. Des choses à régler. Cela peut être encore une demande de pardon à exprimer ou une parole de pardon à prononcer. C'est peut-être une colère contre Dieu qu'il faut à la fin abandonner. Il y a plusieurs années avant que je sois parmi vous, un ami m'a fait venir justement pour régler ça. Une colère contre Dieu. Et puis sa famille l'a trouvé changé après. Il n'a pas passé la semaine. Un troisième et dernier point. Ta dernière prière. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Étienne, le premier martyr, a dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Prière de confiance incroyable. Pierre tombe sur toi, Étienne, et tout ce que tu trouves à dire, c'est « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Quelle confiance. Père, Seigneur Jésus, c'est ce qu'on appelle, nous, des prières d'abandon. Entre tes mains, je remets mon esprit. C'est se laisser aller. Non pas dans le sommeil, mais vers Dieu. On n'attend plus personne, on ne lutte plus, on se laisse aller. Et le chrétien, la chrétienne, ultimement, se laisse aller vers Dieu qui l'accueille. C'est quoi une belle mort? Aujourd'hui, c'est être foudroyé sur un terrain de golf sans avoir eu le temps de penser à rien. C'est la crise cardiaque qui vous terrasse alors que vous êtes dans le feu de l'action. Mais autrefois, il n'y a pas si longtemps, on aurait dit là que c'était quelque chose d'assez affreux, de s'en aller comme ça, un enclaquement de doigts. Parce que la personne n'avait pas eu le temps de préparer son départ, ni en faisant ses adieux, ni en se mettant en règle avec Dieu. En fait, la meilleure façon de préparer son départ, que ce soit sur un terrain de golf ou au lit, c'est de vivre dès maintenant en communion avec Dieu et avec ses frères et sœurs. C'est de vivre dès maintenant dans la certitude d'être aimé et accueilli. Le mot de la fin. Qu'est-ce que nous allons dire à Dieu, nous ? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ou, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Je me laisse aller à toi. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Dans le paradis. Et le Père, qu'est-ce qu'on peut espérer entendre de sa part ? J'aime cette parole de Matthieu 25, verset 21, répétée au verset 23. Tu as bien fait, bon et fidèle serviteur. Tu as bien fait, bonne et fidèle servante. Allez, entre dans la joie de ton maître. Amen.
Je vous invite à quelques secondes de réflexion et de prière intérieure. Et après, nous continuerons par quelques chants. Amen. Nous allons écouter maintenant plusieurs chants. Le premier, c'est « Bénis Dieu, ô mon âme ». Je vous invite à le parler quand vous aurez les paroles affichées pendant que nous écoutons la musique. Voilà, nous arrivons au terme de ce culte. J'invite Elisabeth pour les annonces. Je vous rappelle qu'au niveau des finances, il y a la possibilité de verser par Twint, de verser dans la corbeille qui se trouve au fond, ou par bulletin ou virement bancaire. Tous les moyens sont bons. Je passe la parole à Elisabeth.
Bonjour. Et pour compléter ce que vient de dire Daniel, le Conseil aimerait vous remercier parce que nos finances restent saines et nous permettent vraiment d'honorer tous nos engagements. Alors merci à chacun d'entre vous. Dimanche prochain, culte avec Sylvain Dupertuis. Mardi 20, donc pas ce mardi, mardi de la semaine d'après, réunion de prière par vidéo toujours. Voilà, c'est toujours pas possible de se réunir. Alors, ce sera par vidéo. Vous recevrez le lien pour le Zoom. Le dimanche 5 avril est décédé Walter Weideli, le mari de Carole. Il a participé au culte jusqu'à son entrée à l'EMS Pierre de la Faye, lorsque ses problèmes de mémoire sont devenus trop importants qu'il puisse rester à la maison. Et Carole l'a rejoint dans le même EMS il y a 2 semaines, sa santé se détériorant aussi, malheureusement. Et nous avons pensé à Carole, à ses enfants, Daniel et Guy, qui ont participé pendant plusieurs années à la vie de l'Église, ainsi qu'à sa famille. Le service funèbre a lieu donc mardi après-midi à 14h30 ici. Si vous souhaitez participer, il faut vous inscrire auprès de Carole. On vous dira s'il y a encore des places, le nombre étant malheureusement toujours limité à 50 personnes. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres annonces. Bon dimanche.
Au matin du dimanche de Pâques, Clérlisse Rex a partagé sur le groupe WhatsApp EM Partage quelques magnifiques photos. Alors je sais, on est tout en discrétion, je ne sais pas, Roxane, on arrive à projeter la slide. Alors c'est, voilà, j'ai extrait une ou deux photos de Clérlisse. Cette image m'a accompagné pendant cette semaine, pendant la préparation aussi pour la prédication, ce magnifique œuf de Pâques, vous le voyez ici avec, voilà, il y a différents fonctionnements possibles, mais je trouvais très fort l'idée de la croix qui ouvre finalement pour nous une ouverture vers bien d'autres choses. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction que je tire de 2 textes bibliques ce matin. Le premier, 1 Pierre 1, les versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Et puis Jésus nous dit en Jean 6, 40, « Oui, voici ce que veut mon Père, que tous ceux et celles qui voient le Fils et qui croient en lui aient la vie éternelle et que je les ressuscite au dernier jour. » Alors bien-aimés, allez dans la paix et la joie renouvelée de la résurrection du Christ qui assure notre propre résurrection corporelle et qu'il soit votre force, votre joie, votre sérénité pour la semaine qui vient. Amen.